Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue en ce magnifique, magnifique jour de sabbat. C'est toujours un plaisir de se retrouver tous ensemble en tant que peuple de Dieu. Mais imaginez-vous loin de toutes les distractions de votre vie. Pensez à toutes les distractions qui peuvent occuper votre vie pendant 2 semaines. Pour certains, cela peut simplement signifier, oh, ce serait génial. Pour d'autres, ce serait un moment, voire 2 semaines, de détresse. Mais imaginez ne pas être constamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes simplement libre de réfléchir sans utiliser votre téléphone, sans subir aucune pression liée à l'université, au travail ou à l'école. Rien de tout cela pendant 2 semaines entières. Aucune priorité concurrente, encore une fois, pendant 2 semaines. Juste la création de Dieu, le peuple de Dieu, et la réflexion sur ce dont je parle. Les jeunes de Dieu réunis, ainsi que l'enseignement de Dieu et ces 2 semaines consacrées à grandir. C'est exactement ce que nous avons vécu lors du dernier AAC, l'ambassadeur Yankan, qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Les participants, les bénévoles, et nous, les animateurs, nous avons pleinement apprécié ce camp. Toutes les conversations que nous avons eues pendant les repas, lors d'une sortie en canoë ou d'une randonnée. Même les participants avec leurs animateurs pendant le temps passé dans les dortoirs. Les matchs de foot que nous avons disputés, le tournoi de foot, ou simplement les moments passés sur la balançoire géante ou les cordes, le parcours d'accrobranche que ces campeurs et bénévoles ont courageusement gravi. 2 fois. Ils ont eu l'occasion de le faire à 2 reprises. Cette année, nous avons eu l'occasion d'observer les étoiles. C'est quelque chose que nous voulions faire l'année dernière, mais la météo ne nous l'avait pas permis. Cette année, en revanche, nous avons pu lever les yeux vers le ciel et admirer de magnifiques, magnifiques étoiles. Des milliers et des milliers. Nous avons observé au télescope un amas d'environ 25 000 étoiles, toutes très proches les unes des autres. Nous chantions, dansions et discutions autour des feux de camp, tout en préparant des s'mores. Or, chaque activité, chaque moment que nous avons partagé pendant le camp, ces 2 semaines passées à l'écart de toutes ces pressions dont j'ai parlé, tout cela avait un seul objectif en tête. Ces moments étaient joyeux et reflétaient le mode de vie de Dieu. Il y a toujours un but derrière chaque conférence, chaque activité et chaque récompense. Si quelqu'un gagnait quelque chose, cela s'accompagnait d'une récompense. Mais en fin de compte, cela a permis aux jeunes de grandir. De grandir et de devenir des leaders. Mais mes frères et sœurs, avant de poursuivre, je tenais à mentionner vos prières, vos encouragements, le sacrifice de chaque bénévole et le soutien financier de chacun. Que vous ayez ou non un enfant ou un jeune dans votre congrégation, la contribution et le soutien de chacun ont rendu ce camp possible. Ils ont rendu ces 2 semaines possibles. Et en tant que directeur du camp, je tenais à profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour ce que vous avez fait afin de rendre ce camp possible. Mais, mes amis, tout comme Dieu utilise l'expérience du camp de jeunesse Ambassador pour préparer et façonner toutes ces activités, pour former les jeunes en vue de leur avenir et de leur futur leadership, il a également préservé la vie de ses serviteurs dans les Écritures afin de nous enseigner, de nous façonner et de nous préparer aujourd'hui. Le camp est donc un terrain d'entraînement pour les jeunes, mais nous pouvons nous tourner vers les serviteurs et ces dirigeants que Dieu nous a présentés. Il a consigné leur vie dans la Bible, dans les Écritures, afin que vous et moi puissions être préparés, façonnés et formés à notre tour. Maintenant, pensez à certains de ses serviteurs. David. Nous lisons l'histoire de David, de Moïse, d'Esther, de Daniel. Pourquoi Dieu a-t-il consigné leur vie dans la Bible pour nous? Paul nous donne la réponse. Paul nous donne la réponse, et c'est une réponse à deux volets. Allons dans la première épître aux Corinthiens. Nous allons ainsi commencer à construire ce message. En réfléchissant un peu au camp, en faisant le lien avec certaines de nos expériences vécues au camp, mais aussi, mes frères et sœurs, ce message s'adresse à tous, à chaque membre de l'Église de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Chacun peut apprendre et devrait apprendre, et vous le verrez au fur et à mesure que nous avancerons. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. J'ai mentionné que Paul nous donne la réponse à la question de savoir pourquoi Dieu a conservé les leçons, les vies de ses serviteurs, dans sa parole. Verset 11. Si vous y êtes. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir de type. Si vous lisez à partir du verset 1, il est question des mauvaises actions commises par Israël, des erreurs qu'ils ont commises. Et elles ont été écrites pour notre instruction, voilà la première chose, voilà la première raison, le premier but pour lequel Dieu a conservé les vies de ses serviteurs dans sa parole. Pour que nous tirions les leçons de leurs erreurs, de leurs faiblesses, de leurs défauts, en nous laissant instruire par eux. Sur qui sont venues les fins des temps. Il est donc important pour nous de pouvoir nous concentrer sur toutes ces vies. Mais c'est là le seul but. Passons à un autre. Paul nous en donne à nouveau deux. Romains, chapitre 15, verset 4. Romains, chapitre 15, verset 4. Quelque chose qui va tout à fait dans le même sens. Et aussi, ce que nous pouvons apprendre des serviteurs. Tous ces serviteurs, même à travers la vie de ceux d'Israël. Mais réfléchissons un peu plus à ces noms que j'ai mentionnés. Car tout ce qui, Romains 15, verset 4, car tout ce qui a été écrit autrefois, il y a bien longtemps. C'est presque comme si nous avions oublié ce qui s'était passé. Mais Dieu dit, non, vous ne devez pas oublier. A été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a donc de l'encouragement, de la consolation et de l'espérance lorsque nous découvrons la vie du peuple de Dieu. Maintenant, Samson. La vie de Samson illustre parfaitement ces deux aspects, mes amis, l'avertissement et l'espérance. Quand nous pensons au camp de jeunes ambassadeurs, à Dieu œuvrant auprès des jeunes, en nous considérant nous aussi comme le peuple de Dieu, Samson est une illustration parfaite, car Dieu a commencé à œuvrer avec lui dès son adolescence. Dieu avait en effet prophétisé son dessein concernant Samson. Il était né pour diriger Israël et pour le juger. Le peuple était alors en captivité sous le joug des Philistins. C'est donc un exemple que nous allons examiner, mes frères et sœurs. Mais ce qui fait de Samson un si grand maître pour nous, ce sont en grande partie les erreurs qu'il a commises. Ainsi, mes frères, alors que Dieu nous prépare à exercer des responsabilités de direction, la vie de Samson nous rappelle que nos erreurs ne doivent pas nécessairement déterminer notre avenir. Quand on examine la vie de Samson, on peut avoir l'impression qu'elle est déprimante ou négative. Mais il ne devrait pas en être ainsi, mes frères. Il s'agit en réalité d'un message d'une immense espérance. En observant la vie de Samson, on voit que Dieu nous a donné, à vous et à moi, une occasion d'apprendre. Voyons donc la première leçon que nous pouvons tirer de la vie de Samson. Dieu nous l'illustre en nous invitant à examiner un peu plus en détail ses erreurs. Et, à un moment donné, vous vous demanderez peut-être, qu'est-ce que Samson a fait de bien? Passons donc au livre des juges. Comme je l'ai mentionné, Le dessein de Dieu pour Samson était de libérer Israël, de juger Israël avant l'ère des rois. Dieu s'est servi de juge, et Samson était l'un d'entre eux. Chapitre 13 du livre des juges. Nous allons simplement lire quelques versets. Si vous parcourez les chapitres 13 et 14, jusqu'à la fin du chapitre 16, je crois, vous trouverez des passages sur Samson. Il y a donc beaucoup de choses écrites sur Samson, mais nous n'allons pas tout passer en revue. La première leçon que nous pouvons en tirer, mes chers frères et sœurs, alors que vous êtes au chapitre 13, je vais reprendre au verset 3, c'est que le leadership commence par le dessein de Dieu et non par les capacités. C'est là que commence le leadership lorsque nous lisons l'histoire de Samson. Dieu a un dessein pour vous et moi. Il avait un dessein pour Samson. Il avait un dessein pour les enfants, les jeunes et les bénévoles, pour nous tous au camp. Il a un dessein pour nous, frères et sœurs, en tant qu'Église. Lisons et tirons des leçons de Samson. Et l'ange du Seigneur apparut à la femme. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on lit l'histoire de la mère de Samson, son nom n'est jamais mentionné. Seul le nom de son père, Manoah, est mentionné. Mais ici, nous lisons l'ange du Seigneur. Et comme nous l'avons appris dans la série sur les prophéties, cet ange du Seigneur fait référence à Jésus-Christ qui est venu vers la mère de Samson, qui lui est apparu, et lui a dit, « Voici, tu es stérile. » Elle n'avait pas d'enfant. Je suis sûr qu'elle et Manoah en ont beaucoup parlé. Comme on peut le lire au verset 2, il était d'Anite, mais elle était stérile, et n'a pas enfanté. Dieu savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant donc, je t'en prie, prends garde de ne pas boire de vin ni de boisson forte, et de ne pas manger de choses impures. Son destin était d'être naziréen. Il ne pouvait pas boire de boisson forte. Il ne pouvait pas manger de choses impures ni toucher quoi que ce soit d'impur. Car voici, tu concevras et tu mettras au monde un fils, et aucun rasoir ne viendra sur sa tête. Voilà la troisième caractéristique qui définissait un naziréen. Il n'avait pas le droit de se raser ni de se couper les cheveux. Comme nous le savons, Paul a mentionné qu'il était honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Mais ici, c'est Dieu qui l'ordonne, car il avait un dessein pour Samson, qu'il ne se coupe pas les cheveux. Car l'enfant sera naziréen de Dieu dès le sein de sa mère, et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà son dessein défini. Dieu donne à sa mère un aperçu de l'avenir et du rôle de chef que Samson allait jouer. Pensez au rôle de chef dont on nous parle et que nous allons tous avoir dans le royaume de Dieu. Un ange apparaît à la mère de Samson. Il est choisi. Il est appelé dès sa naissance à être naziréen, et son dessein, encore une fois, est de délivrer Israël. Il avait un potentiel extraordinaire, et Dieu avait un dessein pour lui dès le commencement. On ne trouve pas de mention de sa force, mais quand on pense à Samson, c'est probablement l'une des premières choses qui vient à l'esprit parmi ses capacités. Allons lire le chapitre 13, verset 24. Vous pouvez lire tout le chapitre ici. Verset 13. Je ne fais que le parcourir rapidement, mes amis. Regardons le verset 24. Et cette promesse s'est réalisée. La femme enfanta un fils, et elle l'appela Samson. L'enfant grandit, et le Seigneur Dieu le bénit. Il était donc avec lui, comme il l'avait dit dès le début lorsqu'il était apparu à la mère de Samson. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'animer de temps à autre dans le camp de Dan, entre Zora et Ishtéol. Dieu était donc avec lui. Il avait un dessein. Et Dieu a commencé à agir, comme nous le voyons chez Samson de temps à autre. Pas tout le temps, mais de temps à autre. Dieu a préparé son son bien avant même que celui-ci ne s'en rende compte. Réfléchissez à notre appel, mes frères. À la mission que vous et moi avons. Cet appel n'est pas réservé à Samson. Passons à la deuxième épître à Timothée. Nous avons été appelés. Nous avons une mission. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9. Un verset très connu. 2 Timothée 1, verset 9. Il est dit, c'est lui qui nous a sauvés, frères et sœurs. Nous sommes en train d'être sauvés, mais lorsque vous avez été baptisés, nous disons souvent à ceux qui se font baptiser, si, pour une raison quelconque, vous veniez à mourir aujourd'hui, Dieu vous a sauvés à ce moment-là. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous a appelés par une vocation sainte, non pas selon nos œuvres, c'est lui qui nous a appelés. Nous avons un dessein, mais pas selon nos capacités. Dieu n'a pas commencé à œuvrer avec nous à cause de nos capacités. C'était à cause de ce que nous entendons et lisons ici, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été accordés en Christ avant le commencement du monde. Tout comme pour Samson, avant même que nous ne nous en rendions compte ou que nous le comprenions, frères et sœurs, Dieu avait un dessein pour nous. Et en tant que chrétiens, nous apprenons jour après jour ce qu'est cet appel. Même à l'acte. Nous reconnaissons chacun et apprécions la force. Si vous pensez à ce que nous avons observé à l'acte, les jeunes hommes sont souvent reconnus pour leur force, leur vigueur, leur courage, leur capacité. Leur capacité à agir. On le voit bien lors de la sortie en canoë. Lorsqu'un canoë chavire, un jeune homme peut se jeter à l'eau, et à deux, ils peuvent retourner le canoë, vider l'eau et repartir. Ou encore, lorsque nous avons dû faire et défaire les bagages de tous les jeunes pour quitter le camp, les garçons ont pu se mobiliser pour porter les objets encombrants. Nous apprécions la force. Même les jeunes filles apprécient la force des jeunes hommes. Nous avons eu des conférences sur la manière d'être un homme et d'être une jeune fille. Encore une fois, ce leadership que Dieu développe chez les jeunes au camp, mais aussi dans nos vies à tous. La force de Samson était presque sans limite. C'est souvent la première chose à laquelle nous pensons. Samson, ce ne sont pas ses erreurs qui comptent, mais sa force. Revenons cette fois-ci au chapitre 16 du livre des Juges. Nous y lisons que Dieu a commencé à agir de temps à autre, en se servant de Samson. Verset 3 du chapitre 16. Juges, chapitre 16, verset 3. Je peux en fait reprendre au verset 1, juste pour nous donner un peu de contexte. Samson se rendit alors à Gaza, où il vit une prostituée et alla vers elle. Les Gaziens en furent informés, ils en entendirent parler, et dirent, « Samson, viens ici. » Ils l'encerclèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent silencieux toute la nuit, se disant, « Demain matin, quand il fera jour, nous le tuerons. » Ils craignaient la force de Samson, ses capacités. Mais il est dit au verset 3, « Samson resta couché jusqu'à minuit, il était au courant, puis il se leva à minuit, prit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, s'en alla avec tout cela, le verrou compris, les chargea sur ses épaules et les transporta au sommet d'une colline qui se trouve en face d'Hébron. » Or, voilà un verset, mes frères, qui illustre et résume à lui seul la force de Samson. Vous pouvez aller lire le nombre de personnes qu'il a tuées. Mais les archéologues estiment que les portes, les deux portes de Gaza, les montants et le verrou pesaient entre 4 et 10 tonnes. Imaginez que je sois capable de porter peut-être l'une de ces portes, mais Samson, lui, a réussi à les porter toutes les deux. On peut plaisanter un peu, mes frères. Imaginez ne serait-ce que soulever les portes, les montants et les traverses. C'était déjà un exploit extraordinaire. Mais il a fait plus que cela. Il a transporté les portes de Gaza à Hébron, soit une distance d'environ 37 miles en moyenne. Entre 35 et 40 miles. Il ne s'est donc pas contenté de soulever les portes et les montants sur lesquels elles étaient articulées. Il a mis ses deux portes sur ses épaules. Comment peut-on tenir un tel fardeau et le porter sur une telle distance? Il est dit qu'il l'a fait en montée. Il s'est rendu sur une colline à Hébron. Dieu s'est donc servi de Samson pour humilier ce en quoi les Philistins plaçaient leur confiance. Ils comptaient sur leur sécurité. Ces portes nous protégeront. Et Dieu s'est servi de Samson pour détruire cela. Cela faisait partie de l'accomplissement de sa mission en tant que chef. Mais, mes amis, c'est là un exemple de la force extraordinaire, presque incommensurable, que Dieu lui a donnée. La force est souvent la première chose que les gens remarquent. On le voit, on l'a vu au camp. On constate que chez les gens, les capacités physiques des gens sont souvent la première chose que l'on remarque. Le caractère se révèle au fil du temps. La force de Samson, mes frères, a été amplifiée. Quand on l'observe et qu'on lit son histoire, cela nous laisse sans voix. Lorsque sa force a été amplifiée, ses erreurs sont devenues d'autant plus évidentes. On aurait pu penser qu'il était parfait. Il avait l'esprit de Dieu. Il avait été prophétisé dès le début qu'il serait utilisé. Mais quand on examine ses erreurs, c'est en réalité sa force qui les a rendues plus évidentes. Mes frères, le potentiel à lui seul ne suffit jamais. C'est le premier point. Encore une fois, lorsque vous avez noté le leadership, cela commence par le dessein de Dieu et non par les capacités. Encore une fois, cela peut sembler décourageant quand on lit l'histoire de la vie de Samson, mais nous allons voir et commencer à comprendre que cela va susciter beaucoup d'espoir. La deuxième leçon, mes amis, est que le leadership se forge par les choix quotidiens. Quand on examine, nous allons nous pencher un peu plus sur les erreurs de Samson à ce stade. En tirant les leçons de la vie de Samson, nous pouvons examiner les mauvais choix qu'il a faits. Passons au chapitre 14. Nous avons examiné sa force, une force sans pareille. Nous pourrions donc presque en conclure dans notre esprit et dire, eh bien, il avait un caractère parfait. Il devait avoir un caractère bien trempé. Mais ici, au chapitre 14, qui nous ramène un peu plus tôt dans sa vie, nous lisons, Samson descendit, verset 1, à Tina, et il vit à Tina une femme parmi les filles des Philistins. Il monta le dire à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistins. Or donc, prenez-la moi pour femme. On perçoit là une attitude un peu arrogante, je dirais. Un peu d'obstination. C'était un Israélite. Il savait que les Philistins ne s'immisçaient pas dans les questions de mariage. Ses parents, quand on lit le récit, étaient fidèles à la voix de Dieu. Mais lui, d'une certaine manière, déshonore ses parents. Il connaissait sa force. Il avait un peu d'entêtement et d'orgueil, peut-être plus que ce que j'ai décrit ici. Et il en parle à ses parents. Alors son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc aucune femme parmi les filles de tes frères, les Israélites, ou parmi tout mon peuple, pour que tu ailles prendre pour femme une Philistin incirconcis ?» Et Samson répondit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît beaucoup. » Elle devait donc être belle. Samson connaissait sa force. Il devait s'en vanter auprès des jeunes femmes, et nous le lisons à plusieurs endroits. Mes frères, il connaissait sa force. Mais nous commençons à entrevoir certaines de ses insécurités, certains de ses défauts, certaines de ses erreurs. Et la première que nous mettons en évidence, c'est qu'il était obstiné, têtu. Il a ignoré les conseils de ses parents. Une autre preuve apparaît ici, au verset 5. Nous pouvons simplement poursuivre la lecture. Il a commencé à faire des compromis. Il connaissait le plan. Sa mère et son père lui avaient parlé de sa mission, mais il avait l'esprit occupé par d'autres choses. Tout d'abord, nous voyons qu'il manquait tout simplement de clairvoyance et qu'il ne pensait qu'aux jeunes filles philistins. L'autre passage, ici au verset 5, dit « Samson descendit alors, avec son père et sa mère, à Tina, et ils arrivèrent au vignoble de Tina. Et voici qu'un jeune lion rugit contre lui. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit avec force, ce qui nous ramène à la mission de Samson. Et il le déchira, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau, et il n'avait rien dans la main. Comme s'il n'avait rien dans la main. Nous avons vu un petit faon là-bas au campement, très vulnérable, couché dans l'herbe. Maintenant, pensez à un chevreau, un jeune chevreau. Cela peut être un chevreau ou un agneau. Dieu nous indique alors que Samson était si fort qu'il a mis à mort un lion. Il l'a déchiré, mis en pièces, comme s'il ne s'agissait que d'un petit animal. Mais il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla avec la femme, et elle lui plut. Quelque temps plus tard, il revint pour l'emmener, et il fit un détour pour voir la carcasse du lion. Alors qu'il se promenait, il vit la carcasse du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans la carcasse du lion. Et il en prit dans ses mains, or, il était naziréen par vœu. Nous avons appris que lorsque l'ange de Dieu était venu voir sa mère, il lui avait dit qu'il ne devait rien manger d'impur. Cela signifiait donc qu'il ne devait pas y toucher. Mais il est entré, comme nous le lisons ici, et il a continué à manger. Puis il est allé vers son père et sa mère et leur en a donné, et ils ont mangé. Mais il ne leur a pas dit qu'il avait pris le miel dans la carcasse du lion. Car il n'aurait pas dû faire cela. Il a commencé à faire des compromis sur des petites choses. On pourrait dire, eh bien, ce n'est pas grave. Le miel, c'est bon. Il l'a caché à sa mère et à son père. Assurément, s'il leur en avait parlé, il lui aurait, une fois de plus, tout comme il l'avait fait avec la femme philistin, demandé de ne pas faire cela. Mais il a pris le miel, et cela montre, à vous tous, qu'il a commencé à faire de plus en plus peu de cas des limites. Il connaissait les limites, mais il a commencé à faire des compromis sur des petites choses. On pourrait dire, c'est un petit compromis. Au verset 1 du chapitre 16, nous pouvons relire cela. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, mais nous pouvons le relire. Il est dit, au verset 1, Samson se rendit alors à Gaza, où il vit une prostituée, et il entra chez elle. Samson a donc commis une autre erreur. Il jouait avec le péché. Encore une fois, sachant qu'il était marié à ce moment-là, il est allé voir une prostituée. Encore une fois, il commettait clairement certaines erreurs sans tenir compte de la voix de Dieu ni du plan qu'il avait pour Samson. Il était présomptueux. Il jouait avec la tentation. Regardons le chapitre 16, et vous pouvez lire les versets 4 à 20, qui parlent de Samson et de Dalila. Mais je voudrais lire plus précisément les versets 15 à 17. On y lit, et il lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, ou plutôt, c'est Dalila qui lui dit, alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Comment m'as-tu raillé à trois reprises sans me dire en quoi réside ta grande force ?» Ainsi, à trois reprises, Samson est retourné voir une femme, Dalila, qui était hors de ses limites. Il avait un problème avec les femmes. Mais continuons. Et il arriva, comme elle le pressait chaque jour de ses paroles, encore une fois, il fit des concessions. Il alla la voir à plusieurs reprises. Et ici, nous lisons, chaque jour, par ses paroles, elle le pressait, de sorte que son âme, tourmentée à en mourir, lui révéla tout ce qu'il avait dans le cœur et lui dit, « Jamais le rasoir n'a touché ma tête, car je suis naziréen devant Dieu depuis le sein de ma mère. Si je me faisais raser, ma force me quitterait, je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel autre homme. » Réfléchissez au contexte dans lequel il tient ses propos. Dans les bras d'une femme, il révèle le secret que Dieu avait confié à ses parents au sujet de sa force. Une fois encore, il flirte avec la tentation. Puis, au verset 20, « Mes amis, nous découvrons sans doute la déclaration la plus triste de la vie de Samson. » Et elle dit « Dalila, les Philistins sont à tes trousses, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil. Il se reposait simplement là, presque comme s'il n'avait aucun but. Encore une fois, pensez à ces choses, à ces compromis qu'il commençait à faire au quotidien dans sa vie. Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je vais sortir comme les autres fois. » Dans son esprit, il était toujours l'homme qu'il croyait être. Comme avant, et me libérer. Auparavant, elle avait fait la même chose, et il avait pu se libérer des cordes qu'il lui avait mises, qui niaient Samson. Cette fois-ci, il pensait qu'il ferait exactement la même chose. Et me libérer. Et il ne savait pas. Ce mot hébreu signifie qu'il ne savait pas que le Seigneur s'était détourné de lui. Ces compromis quotidiens que Samson a faits, les erreurs qu'il a commises, les moments où il a frôlé le précipice à chaque étape de sa vie, où il a repoussé les limites, vivant à la limite, faisant ses compromis comme nous l'avons lu, mes frères. Il ne s'est pas rendu compte que Dieu s'était détourné de lui. Comment Samson en est-il donc arrivé là? Nous avons lu plusieurs des erreurs qu'il a commises. A-t-il perdu l'esprit de Dieu, la force que Dieu lui avait promise, du jour au lendemain, ou au fil des années passées à ignorer les signes avant-coureurs? Chaque petit compromis, au fil du temps, a conduit Dieu à s'éloigner de lui. Et à ce moment-là, il s'est dit, « Je suis toujours le même homme, doté des capacités et de la force que Dieu m'a donnée. » Il s'est affaibli à force de compromis répétés. C'est une leçon pour nous. Les grands échecs commencent généralement par de petits compromis. Réfléchissons à nos vies, mes frères. Les petits compromis sont souvent dangereux car ils sont rarement considérés comme une rébellion contre Dieu. Ce sont généralement de petites concessions, des choix qui semblent inoffensifs, pratiques ou justifiés. Mais au fil du temps, ils peuvent affaiblir nos convictions, émousser notre conscience et nous éloigner des normes de Dieu. Encore une fois, Samson est une leçon. Lorsque nous examinons ces erreurs, il y a des leçons à en tirer. Quels compromis apparemment mineurs pouvons-nous tolérer dans nos vies? Voici quelques exemples, mes frères. Des relations qui nous font faire des compromis. Entretenir des amitiés qui nous éloignent constamment de Dieu. Il n'y a rien de mal à avoir des amis dans le monde, mais s'ils nous éloignent sans cesse de Dieu, c'est un point sur lequel nous devons nous pencher et remettre en question ces amitiés. Vouloir tellement être accepté que nous cachons nos convictions. Ce sont là des choses que nous communiquons aux adolescents au camp et que nous leur enseignons. Ce sont les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Mais au camp, encore une fois, nous pouvons leur enseigner ces choses. Et pour nous, frères et sœurs, en regardant la vie de Samson, nous pouvons tirer à nouveau ces mêmes leçons. Que nous voulons être forts dans nos convictions plutôt que de rechercher à tout prix l'acceptation des autres. Rire de choses que nous savons être mauvaises parce que nous voulons nous intégrer. Vous pouvez vous trouver dans un cercle social, dans un contexte social, où que vous soyez, au travail, à l'école ou à l'université, où que vous vous trouviez. Avec votre famille, pas votre famille spirituelle, mais votre famille biologique. Pensez au contexte social, puis aux blagues que l'on fait. Ces choses sont bonnes en elles-mêmes, mais nous pouvons à nouveau franchir ces limites et vouloir simplement nous intégrer à ce moment-là, sans nous rendre compte, comme nous l'avons entendu plus tôt aujourd'hui, dans le premier message, de l'importance de notre discours. De la manière dont nous devrions nous comporter dans un tel contexte. Choisir une relation fondée uniquement sur les sentiments plutôt que sur la voix de Dieu. C'est ce qu'a fait Samson. Il n'a pas pris de recul. Il s'est contenté de regarder l'ici et maintenant et a fondé sa décision sur ses sentiments. Il a fait fi des conseils de ses parents. Pensez au conseil du ministère. Pensez, même en tant que jeune, au conseil de vos parents. La voix de Dieu devrait être notre priorité lorsque nous prenons ce genre de décision. Compromettre notre temps avec Dieu. C'est quelque chose qui semble insignifiant, n'est-ce pas, mes amis? Je suis trop occupé pour prier aujourd'hui. Nous tombons tous dans cette situation ou adoptons cet état d'esprit. Encore une fois, nous menons des vies bien remplies, mais prendre ce genre de décision au quotidien peut nous faire dévier du droit chemin. J'étudierai la Bible plus tard ou demain. Je me suis surpris à dire ce genre de choses. Je suis sûr que vous avez fait de même, mes frères et sœurs. Ces petites décisions devraient nous inciter à changer de cap, pour ainsi dire. Passer la première partie ou le meilleur moment de la journée à faire autre chose alors que nous pourrions et devrions le consacrer à Dieu. Encore une fois, ce n'est pas que ce soit mal. Vous n'allez pas nécessairement vous imposer strictement, chaque jour, je dois aller prier immédiatement. Vous allez vous préparer un café. Vous allez faire votre exercice, mais votre état d'esprit, mes frères, devrait être le suivant. Je veux passer le meilleur moment de ma journée avec Dieu. Laisser passer des journées sans prière significative ni étude de la Bible, alors que c'est important pour nous. Cela peut être un signe d'alerte indiquant que je fais un petit compromis. Prenons l'exemple de la parole. Encore une fois, participer à des commérages simplement parce que tout le monde en parle. Cela me donne l'occasion, pour ainsi dire, de recommencer, mais c'est un petit compromis que nous pouvons faire avec notre parole. Les petits choix deviennent des habitudes pour toute la vie. C'est ce que nous avons enseigné aux adolescents au camp. Se lever le matin, respecter des horaires, devoir se déplacer. Ces petites habitudes que nous avons mises en place les aident à comprendre l'importance des petits choix qui deviennent des habitudes durables et essentielles. Samson ne cessait de se demander, jusqu'où puis-je aller? Plutôt que, jusqu'où puis-je rester proche de Dieu? Encore une fois, ce sont de tout petits choix. Samson s'est opposé à la préparation que Dieu avait prévue pour accomplir son dessein, mes amis, à travers les erreurs qu'il a commises. Voici la troisième leçon que nous pouvons tirer de Samson. Les grands leaders apprennent de leurs échecs. Juges 16, verset 21. Réfléchissons à la fin de la vie de Samson. Lorsqu'ils l'ont enlevé à Dalila, ils l'ont mis en prison. Il est écrit ici, continuons à lire, mais les Philistins s'emparèrent de lui, lui crevèrent les yeux, l'emmenèrent à Gaza et le ligotèrent avec des chaînes d'airain. Et ils moulaient le blé dans la prison. Il avait été capturé, il avait été aveuglé, il était en prison. Telles étaient les conséquences. Le péché entraîne toujours certaines conséquences, et Samson a dû vivre pendant un certain temps avec ses conséquences. Mais, mes frères, nous nous attardons souvent inutilement trop longtemps sur nos erreurs, même après en avoir tiré les leçons. Pensez au temps que Samson a passé en prison, ce temps qu'il a eu pour réfléchir à ses erreurs et en tirer des leçons. Samson a finalement touché le fond. Il a perdu sa liberté, il a perdu la vue, il a perdu sa force. Pourtant, le verset suivant, mes amis, introduit discrètement certaines des plus belles paroles d'espoir que l'on puisse trouver dans le livre des juges. En passant au verset 22, nous lisons le verset 21. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à pousser après qu'il eut été rasé. Ils l'ont laissé, et ses cheveux ont recommencé à pousser. C'est un tournant, mes frères, dans l'histoire de Samson. Passons maintenant à deux derniers passages de l'Épître aux Hébreux. En préparant ce message, je me disais, frères et sœurs, ouvrez votre Bible à Hébreux chapitre 11. Où trouvons-nous la réflexion sur Dieu qui a consigné par écrit la vie de ses serviteurs pour notre instruction, mais aussi pour notre réconfort et notre espérance? J'ai mentionné qu'il s'agissait d'un message sur l'espérance. Dieu n'a parlé de Samson que dans l'Ancien Testament. C'est là, dans le livre des Juges, que nous trouvons ces chapitres. Mais dans le Nouveau Testament, le seul endroit où l'on peut trouver son nom, c'est dans Hébreux chapitre 11, et nous allons lire le verset 32. Il est écrit, et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, ainsi que de David, de Samuel et des prophètes. Quand on regarde tous ces noms, peut-être que Jephté ne vous dit rien, mais quand on pense à David, à Samuel ou aux prophètes, on se dit, oui, ils s'inscrivent tout naturellement dans ce chapitre sur la foi. Mais pourquoi le nom de Samson figure-t-il dans le panthéon, pour ainsi dire, de ceux que Dieu a considérés comme fidèles? Nous avons beaucoup lu sur les erreurs de Samson, mes amis. Concentrez-vous bien dessus. Vous pouvez aller les lire plus en détail dans ces chapitres du livre des Juges. Mais pourquoi son nom figure-t-il parmi les héros de la foi? Mes frères, l'Épître aux Hébreux ne se souvient pas, Dieu ne se souvient pas de Samson, pas de la manière dont il a commencé sa vie, mais de la façon dont il l'a achevée. Où il a fini. Revenons au chapitre 16 du livre des Juges. Dieu ne se souvient pas de toutes ses erreurs, de toutes vos erreurs sur lesquelles nous avons souvent tendance à nous attarder trop longtemps, même après en avoir tiré les leçons. C'est tellement inspirant d'y réfléchir. Samson, lui, a trouvé sa place au panthéon de la foi. Mes frères, vous et moi pouvons également recevoir ce réconfort et cette espérance. L'avertissement est bien là, certes. Nous observons leurs erreurs, ses faiblesses, et nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons examiner les nôtres, et nous pouvons en tirer des leçons. Mais nous lisons ici, au verset 28 et 29 du chapitre 16, et Samson invoqua l'Éternel et dit, « Ô Éternel, Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. » Nulle part ailleurs nous ne lisons de prière de Samson, jamais. Pas dans tous ces chapitres. N'est-ce qu'ici que nous lisons une prière profonde et longue, pleine de mots? Non, nous lisons une prière simple qui dit, « Souviens-toi de moi, je t'en prie. Fortifie-moi. » Il savait qu'il avait perdu la force de Dieu. Il a tiré de l'eau ses leçons. Je t'en prie, pour cette seule fois, ô Dieu, afin que je puisse me venger aussitôt des Philistins pour mes deux yeux. Réfléchissez-y. Il s'est souvenu de son but, mes amis. Il s'est souvenu de sa vocation. Et Samson saisit les deux piliers du milieu sur lesquels reposait la maison et qui la soutenait, celui de sa droite et celui de sa gauche. Et Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pencha de toutes ses forces. Et la maison s'écroula sur les chefs et sur le peuple qui s'y trouvait. Ainsi, Le nombre de morts qu'il fit à sa mort fut plus grand que celui qu'il avait tué durant toute sa vie. Une fin tragique pour Samson, mes frères. Et nulle part dans sa vie ne pouvons-nous lire quoi que ce soit sur la relation passionnante qu'il entretenait avec Dieu. Mais ici, à la fin, une simple prière suffit à démontrer la foi dont il faisait preuve. Samson a fait preuve d'une foi remarquable à la fin de sa vie, à travers sa dernière prière, montrant que Dieu peut agir auprès de ceux qui se tournent vers lui avec humilité et confiance. Frères et sœurs, cela nous apporte un immense encouragement et une grande espérance. Comme on le dit, cela suffira. Frères et sœurs, pour conclure, Dieu ne regarde pas d'où vous et moi sommes partis, mais le caractère que vous et moi avons forgé. C'est un point sur lequel nous avons fortement insisté auprès des adolescents et des jeunes avec lesquels Dieu œuvre, lorsque nous leur avons enseigné, montré et fait vivre une expérience au camp. Et il fera de même pour vous. Ce qui compte, c'est ce que vous deviendrez à la fin, ce que vous et moi serons à l'avenir. Dieu n'a jamais renoncé à son dessein concernant Samson. Dieu est resté fidèle malgré les échecs de Samson. Il continue également à nous préparer. C'est Dieu qui est fidèle. Frères et sœurs, c'est sa fidélité qui a finalement permis au nom de Samson de figurer dans le livre de la foi, et non pas tant la fidélité de Samson lui-même. À la fin de sa vie, il s'est montré disposé à obéir. Nous avons pu constater et lire toutes ses erreurs. Ce ne sont pas ses victoires qui ont fait de lui une figure emblématique, pour ainsi dire. C'est la fidélité de Dieu, mes frères, à l'œuvre à travers un homme à la fin de sa vie, disposé à se repentir et à changer. Au cours de la dernière soirée du camp, j'ai posé une question aux participants alors que nous revenions d'un culte couronné de succès ici, au siège. Nous avions notre dernière occasion d'être ensemble, et je leur ai demandé de résumer le camp en un seul mot. Ils ont donné d'excellentes réponses. L'une d'entre elles était équilibre. Tout ce que nous avons fait était équilibré. L'équilibre consiste à lier l'exhortation, mes frères, celle que nous lisons, à l'encouragement pour susciter l'espoir. Nous aurions pu nous concentrer sur les erreurs de Samson et imaginer une issue différente. Plutôt que de présenter Samson simplement comme un héros ou un échec, Dieu a préservé son histoire pour qu'elle soit à la fois une mise en garde et une source d'espoir pour nous. Et ces deux éléments étaient également présents à l'AC. Chaque conférence, chaque étude biblique, chaque activité, chaque conversation, chacun a poussé les participants et l'équipe à se poser les deux questions suivantes, que dois-je éviter, et que dois-je devenir? Pendant ces deux semaines de camp, toutes les distractions ont été écartées des jeunes afin qu'ils se concentrent sur le dessein de Dieu. Mais le camp a fini par prendre fin, et chacun est rentré chez soi. Or, le véritable test pour les jeunes, et pour nous, frères et sœurs, c'est maintenant, ferons-nous, ou ferons-nous les choix quotidiens qui nous préparent au leadership, le genre de leadership que Dieu avait à l'esprit? Samson nous rappelle que les erreurs sont bien réelles et que leurs conséquences sont graves, mais qu'elles ne doivent pas nécessairement déterminer l'avenir de celui qui revient vers Dieu avec foi.